C'est plutôt le contraire. Par exemple, dans une journée particulière des Torres Scola, Mastroianni s'écrit judicieusement à l'adresse des spadassins qui l'accusent d'antifascisme. Vous vous méprenez, monsieur, ce n'est pas le locataire du 6e qui est antifasciste, c'est le fascisme qui est anti-locataire du 6e. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Léopold Sandar Senghor. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné d'une pulpeuse comédienne avec qui j'aime bien travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type remorantin, couperos et de frais, en poursuivant une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que la voiture nous conduit vers le Châtelet, mais alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrit soudain, « Eh ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer. » Ignorant ce trait sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps, 30 secondes plus tard, ça repart. Les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, merci bien. Les vaches, alors, leur musique à la con, merde, vous me croirez si vous voulez, c'est le père qui a dépucelé la fille aînée, ça c'est les Arabes. Cette fois, je craque un peu et je dis, monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah bon? Remarquez, quand son père, je ne dis pas. Il y en a des instruits. On voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à la télévision, je vous ai vu chez Belmar. À l'arrière, brinque-ballé entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Là, la pause est courte. Oui, votre père, je ne dis pas, mais les miens d'arabes, pardon, ils avaient les poulets vivants dans l'appartement. Il leur a arraché les plumes, rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui l'a dépucelé, ça s'entendait. Mais votre père, je ne dis pas. D'ailleurs, les arabes, c'est comme les juifs, ça s'attrape par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe. La concorde, à ce moment-là, il n'y a pas moyen. Mais avance, toi, connard, mais c'est vert, merde, t'es bien 77. Voyez-vous, monsieur, voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race. Il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je ne dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je pense que vous n'avez pas une tête d'arabe. C'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau, il empêche les Français de travailler. Voilà, 67 rue de la Perrerie, nous y sommes, ça fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Vous n'êtes pas généreux, vous alors? Ah, c'est comme ça, me vengeais-je enfin. Je ne donne pas pour boire au blanc. Alors cet homme, tandis que nous nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, sale bico !» À moi, qui ai fait ma communion à la Madeleine. Voilà, un homme qui se trompait de colère. La crainte de sombrer dans la démonstration politico-philosophique m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si cet homme était de la race des bourreaux ou de la race des victimes, ou des deux. Ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. En sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares. Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. En un mot commençant, chers habitants hilars de ce monde cosmopolite, je conclurai ma réflexion zygomatique en répétant inlassablement qu'il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. J'étais littéralement fou de cette femme. Pour elle, pour l'étincelant s'amuser de ses yeux mouillés d'intelligence aiguë, pour sa voix cassée, lourde et basse et de luxure assouvie, pour son cul furibond, pour sa culture. lecture, pour sa tendresse et pour ses mains. Je me sentais jouvenceau fulgurant, prêt à soulever d'impossibles rochers, pour y tailler des cathédrales, où j'entrerais, botté, sur un irrésistible alzan, fou lui aussi. Je l'emmenais déjeuner dans l'antre bordelais d'un truculent saucier qui ne sert que si table, au fond d'une impasse endormie du 15e où j'ai mes habitudes. Je nous revois dégustant de moelleux bonnets noirs en célébrant l'automne, romantiques et graves, d'une gravité d'avant crépusculaire. J'étais au bord de dire des choses à l'eau rose quand le sommelier est arrivé. J'avais commandé un Figeac 71, mon Saint-Émilion préféré, introuvable, sublime, rouge et doré comme deux touches de soleil, profond comme un la mineur de contrebasse, éclatant en orgasme au soleil, plus long en bouche qu'un final de Verdi, un vin si grand que Dieu existe, à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans. Je ne l'ai plus jamais aimé. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Dans certains quartiers chauds de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Monsieur Rachid Djerkaoui a été agressé la nuit dernière dans le 18e. J'aime bien Monsieur Rachid Djerkaoui, il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de Monsieur et Madame Lefranc qui périclitait. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture de l'épicerie, Madame Lefranc se faisait pétrir par le boulanger. Pendant ce temps-là, Monsieur Lefranc en profitait pour aller boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se ratatinait sur des enfilades de ballons muscadets au rendez-vous Montmartois de la rue Caulaincourt en compagnie de Monsieur Leroy le boucher. Les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou. Ils avaient en commun une certaine idée de la France. C'est à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les grandes surfaces, les étrangers et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand Monsieur et Madame Lefranc réintégraient enfin leur commerce à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer la boutique pour ne pas rater Bouvard. Tant et si bien que les clients, lassés de poireauter aux poireaux, avaient fini par remporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers le supermarché. « Femme, dit un soir M. Lefranc, sur un ton solennel qui ne lui était pas coutumier, nous sommes pris à la gorge par les gros à la solde de l'étranger, nous allons devoir vendre l'épicerie. » Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Hélas, l'épicerie, forcément, personne n'en voulait. À quelque temps là, alors qu'il gloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy Saint-Yor et les établissements Mammouth, Monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour, monsieur le petit homme, vous êtes bien Monsieur Lefranc?
Qu'est-ce qu'il me veut, ce melon?
Lança Monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous prie, excusez, je ne suis pas un melon, je suis épicier, dit le petit homme. Je m'appelle Rachid Djerkaoui, j'ai vu que vous cédiez votre bail, ça m'intéresse. Merde alors, dit Monsieur Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait vraiment chier de voir un fainéant bico dans mon magasin, plutôt crevé. Après s'être ainsi brillamment exprimé, Monsieur Lefranc se dit qu'il ne tomberait jamais deux fois sur pareil logo. Le lendemain, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à M. Rachid Djerkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa Ker Mein Kampf, en compagnie de Madame Lefranc, qui se consolait de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant des jeunes projets de barater le grenier de la rue du Varech, de Quimperlot et de Crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Dans le quartier, nous sommes très contents du nouvel épicier pour des fainéants. C'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Pour nous, c'est vraiment pratique. Le dimanche soir, par exemple, M. Rachid ne ferme jamais l'épicerie tant que le quartier n'est pas rentré le week-end. Le dimanche dernier, je suis allé chercher une salade et un pain de mie. À 9h du soir passé, c'était encore ouvert.